Bonjour à tous, donc je me présente Florence Gras du département ingénierie pédagogique de l'AFT. En tant que représentante de la profession, je participe au groupe de travail du ministère du Travail ainsi que du ministère de l'Éducation nationale pour la création et la rénovation de titres professionnels et de diplômes préparant au métier du transport et notamment dans le cadre avec l'Éducation nationale sur le BTS et le bac pro. Alors, dans le cadre de cette rénovation de ce BTS, les professionnels ont attiré l'attention de l'AFT sur les distorsions entre l'examen et le contenu du diplôme, précisément sur la partie gestion, qui semble-t-il comportait des faiblesses dans ce diplôme. Si les compétences, comme le disait Pierre, existaient dans l'ancien référentiel, elles étaient insuffisamment évaluées et mises en œuvre par les apprentis et les étudiants, d'où le sentiment des professionnels de lacunes préjudiciables dans ce domaine. Pour rappel, comme le disait Pierre, elles étaient incluses dans le bloc de compétences GRS sous la forme d'un rapport d'activité, mais elles n'étaient pas évaluées dans une évaluation spécifique ponctuelle, écrite. De plus, il était nécessaire, dans le cadre de l'attestation de capacité, d'avoir une visibilité au niveau des compétences de gestion. Donc, pour répondre à cette demande, la demande des professionnels et de l'attestation de capacité, ces compétences ont été incluses dans le bloc 3 et seront évaluées régulièrement par une épreuve écrite ponctuelle et seront également mises en œuvre aussi et évaluées dans le bloc 4. Je laisse à Yvette et Christiane le soin de présenter le bloc 3.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je vais reprendre le bloc 3. Je crois que tout le monde a bien compris que là, l'objectif, c'est que notre étudiant, il adopte une posture de gestionnaire, une responsabilité de chef d'entreprise, et il se doit de mettre en œuvre des compétences de gestion. Il n'a pas seulement un regard métier sur une opération de transport, mais il aura l'obligation d'avoir une vision globale de l'activité transport, c'est-à-dire l'activité économique de son entreprise. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre, en fait, ces compétences de gestion, nous avons quand même restreint le bloc 3. Et en fait, notre objectif, c'est que notre gestionnaire soit ce qu'on appelle un performateur, c'est-à-dire une personne en quête d'amélioration continue sur plusieurs dimensions. Il aura besoin d'outils, en fait, pour pouvoir mettre en œuvre cette performance, cette mesure de la performance. Mais nous n'avons pas d'outils qui permet de mesurer cette performance globale. Donc, nous l'avons dimensionnée, cette performance globale. Et nous aurons donc la première dimension sociale qui aura pour objectif de porter un regard sur l'équipe, un regard restrictif sur un collectif, l'équipe de conducteurs, de manutentionnaires, mais aussi un regard sur les hommes dans l'entreprise et leur fonctionnement. Ça induit des compétences managériales. Il aura également un regard sur l'efficacité de son appareil de production, puisqu'il devra mesurer la rentabilité de son activité économique et mettre en œuvre alors plutôt des compétences de contrôle de gestion. On est plus ciblé dans le contrôle de gestion. Et il ne doit pas oublier que son activité s'inscrit dans un environnement. Il se doit de préserver l'environnement dans lequel l'activité s'inscrit. Et bien entendu, se doit de respecter le cadre réglementaire international, européen, législatif, national, d'accord, dans la mise en œuvre. Alors, c'est un bloc qui est transversal, qui emprunte à la gestion, qui emprunte au management. Et si vous voulez, qui a plusieurs interprétations dans la performance. Mais nous l'avons ciblé autour du triptyque, je pense que vous connaissez tous, hein, qui a pour objectif de mettre en lien donc, les objectifs d'une entreprise assignés par l'équipe de direction, les actions des hommes dans cette entreprise, qu'on appelle la mesure de l'efficacité, le ramener aux moyens également qui sont mis en œuvre, ce qu'on appelle l'efficience, et après avoir un regard sur la pertinence des moyens en lien avec les objectifs. Donc ce fil conducteur, nous allons le garder dans toutes les dimensions qui peuvent être couplées, puisqu'on peut faire une mesure sociale avec une incidence financière ou une mesure environnementale avec une incidence financière. Mais en aucun cas, de toute façon, on abordera la performance intégrée, puisqu'elle ne se décline pas. Donc on gardera bien un objectif de fil conducteur contextualisé dans des situations professionnelles qui va nécessiter une sensibilité au contexte de l'entreprise. Et bien appréhender en management ce qu'on appelle les facteurs de contingence pour bien que notre étudiant ne fasse pas en fait un copier-coller d'indicateurs dans une mesure et s'imagine que ce soit la même dans une autre entreprise. Donc voilà pour la première partie de l'intro sur le cadre d'analyse. On va peut-être passer aux compétences. Alors nous avons ciblé 7 compétences, des compétences qui sont transférables à toutes les activités et certaines qui sont spécifiques, qui vont permettre de mettre en avant des méthodologies, on va dire, spécifiques aux activités. Et les quatre compétences donc transférables, nous allons vous les présenter selon une chronologie. Par contre, cette chronologie n'est pas à systématiser. Vous pouvez combiner en fait ces compétences et partir par la dernière compétence. Là, on a gardé, si vous voulez, la chronologie en fait de la première année et de la deuxième année, mais vous pouvez très mal articuler dans une autre chronologie. Donc la première, elle a pour objectif de proposer donc des indicateurs, et on a utilisé le verbe de compétence produire, puisque nous sommes en début de première année et nous avons souhaité que l'élève ne soit pas un simple répétiteur. Donc en fait, qu'il ait vraiment cette dimension de créativité, qu'il puisse trouver en fait quelle est l'information qui est utile. L'indicateur, en fait, qui va permettre aux décideurs de prendre des décisions. Donc, il est vraiment dans la créativité, imaginer, en fait, l'indicateur qui est vraiment utile. Alors, les indicateurs, on les a déterminés comme étant quantitatifs et qualitatifs, puisqu'on peut être sur des indicateurs qu'on calcule, ou alors tout simplement, si vous cherchez un label Certibruit, vous avez juste besoin de savoir si l'entreprise, elle est labellisée ou pas. Donc, on sera sur du qualitatif. Et pertinent, puisque ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit vraiment en lien avec les objectifs de l'entreprise. C'est vraiment à l'objectif de la performance. Ensuite, pour la deuxième compétence, donc nous avons donc bien entendu l'établissement du tableau de bord, qui induit une compétence de synthèse, puisqu'il se doit donc d'avoir à l'esprit une structure, je dirais, cohérente, qui permet de mettre toutes les informations utiles, mais qui elle-même lui pose la question en fait de l'indicateur qui sera repris dans le tableau de bord, donc le regard critique sur l'indicateur. Donc la compétence d'évaluation, qui est induite par la compétence de synthèse. Et nous avons bien mis des tableaux, c'est-à-dire des tableaux pluriels, puisque vous avez derrière des personnes qui vont utiliser le tableau avec un objectif très précis. Si on s'adresse à des actionnaires, vous allez proposer un tableau de bord de gestion. Si vous voulez mettre en avant le capital humain, vous allez proposer des tableaux de bord scandinaves. Donc en fonction de l'utilité de l'information que vous voulez faire passer, il va falloir apprendre à nos élèves d'utiliser les différents tableaux de bord, et puis celui qui est très à la mode, bien sûr, de Norton et Kaplan, le tableau de bord prospectif, si vous êtes sur des DAS, devra être utilisé. Après, donc, nous arrivons donc à peut-être la partie la plus délicate, l'analyse en fait et l'interprétation des indicateurs. Derrière donc l'analyse, nous avons souhaité mettre en lien les données et le questionnement. Mais nous avons donc deux, je dirais, typologies d'analyse. Celle qui sera simplement descriptive, dans laquelle vous demandera à vos élèves donc de caractériser des variables. Si on est sur les gaz à effet de serre, bien, ils doivent savoir quels sont les polluants qu'on met derrière les gaz à effet de serre, tout simplement. Ou alors sur une analyse qui est plutôt explicative, et si vous êtes sur les litiges, on devra demander à un étudiant d'être capable de réfléchir en amont sur les causes des litiges. Donc être capable de faire le lien causal avec, je dirais, le dysfonctionnement de l'entreprise. L'interprétation, donc, c'est, je dirais, plutôt donner le sens, traduire la donnée que vous avez sous les yeux, et surtout être capable de vous dire si vous avez une augmentation de votre taux d'accident du travail, une mesure donc en augmentation, vous avez le déclic, vous vous dites spontanément, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'entreprise. Donc c'est vraiment donner du sens à la valeur. Ne pas s'arrêter en disant, l'indicateur a monté. Non, on va au-delà, il est en augmentation et on doit comprendre que derrière il y a un dysfonctionnement. Et puis une fois qu'on a fait donc cette analyse et cette interprétation, nous arrivons à la dernière compétence, proposer des actions correctives. Alors, les actions correctives, elles sont référencées par la norme 9001 de mémoire et elles mettent en avant la non-conformité. Donc on n'est pas spécifiquement sur la non-conformité, on est plutôt sur des pistes d'amélioration. On revient sur la dimension de créativité, l'élève doit être capable de se dire « il y a quelque chose qui ne va pas ». Il propose, donc il est vraiment dans l'imagination, et derrière cette créativité, il évalue également, c'est-à-dire qu'il porte un jugement sur ce qu'il propose par rapport au dysfonctionnement. Et l'objectif étant d'éviter les récidives et d'éviter de répéter nos erreurs, bien entendu. Pour les compétences spécifiques, alors nous avons donc créé, justifié, je viens de le dire, et on arrive aux compétences spécifiques. On va les reprendre avec les activités, les savoirs. Donc, juste, elles ont été identifiées puisqu'on veut marquer, si vous voulez, l'importance de certaines activités et les méthodologies qui sont assignées à ces activités, ces savoirs. Donc, on en parlera tout à l'heure.
Donc, le bloc 3 couvre 6 activités professionnelles. Nous allons vous présenter rapidement les 3 premières et on va développer un peu plus les 3 dernières. En ce qui concerne donc déjà la première activité, donc sur la performance organisationnelle. Comme a pu vous le préciser tout à l'heure Caroline et Pascal, donc dans le bloc 1, on va s'occuper de l'organisation de la prestation de transport et de la prestation logistique. Donc là, on est dans le bloc 3, donc sur la performance. Donc le souci de tout responsable d'exploitation ou d'entreprise, c'est de savoir si j'ai atteint mon optimum. Est-ce que la solution que j'ai mise en place dans le bloc 1 est optimale ou pas ? Est-ce que les moyens mis en place dans la mobilisation des ressources matérielles du bloc 1 sont optimales ou pas ? Donc ça sera mon questionnement et donc d'où le lien avec la performance. On va travailler aussi sur la performance des sous-traitants. Tout simplement parce que si je ne peux pas organiser mon transport en moyens propres, je vais donc déléguer, sous-traiter ou affréter à des prestataires extérieurs. Et à partir de là, donc, ça met en cause mon image de marque. On peut avoir de la non-qualité. Donc on va vérifier si mes sous-traitants répondent bien à mes objectifs et aux différents critères que j'ai mis en place. Donc c'est pour cela que nous avons aussi donc, cette qualité qui sera évaluée. En ce qui concerne la performance commerciale, donc ma problématique, c'est de savoir si mes commerciaux refont le travail correctement. Je suis là pour fidéliser mes clients. Donc je suis bien sûr de la qualité, je regarde un petit peu les tableaux de bord mis en place, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, je regarde mes remontées et à partir de là, je regarde la performance de mes différents commerciaux. Analyse des litiges, analyse des litiges, donc comme a pu le dire tout à l'heure Caroline, tout ce qui est incident, aléa, c'est du bloc 1. Donc là, nous sommes sur le traitement des litiges. Donc traitement des litiges sur le bloc 3 veut dire une évaluation à l'écrit. Nous verrons plus précisément ce qu'on entend, donc le contour, on va dire la dimension des litiges, comment ça sera évalué, qu'on va développer le savoir tout à l'heure. Maintenant, on va vous présenter donc les trois savoirs suivants. Trois activités, excusez-moi, autant pour moi. Donc, activité A3-4, donc sur la performance sociale.
Pour aborder cette performance sociale, nous allons cibler les ressources humaines de l'entreprise. Même si nous avons un devoir de vigilance, on l'abordera dans la RSE. Donc, on ne se préoccupe pas du personnel, par exemple, de nos sous-traitants. On est vraiment en interne dans l'entreprise et on porte un regard donc sur nos hommes dans notre entreprise. Alors pour ce faire, nous avons trois tâches. Une qui est globale, qui a un regard global sur l'activité, mesure sociale globale de l'activité de nos hommes, et deux qui seront spécifiques. Une qui va porter sur la dynamique d'équipe pour mettre en avant nos conducteurs, nos manutentionnaires ou éventuellement les exploitants, et une qui ciblera l'individu, puisqu'on parlera de performance individuelle. Alors pour pouvoir travailler, nous allons avoir les mêmes compétences que nous avons ciblées tout à l'heure, donc les compétences transférables et spécifiques. Et puis nous allons donc bien sûr nous asseoir sur notre outil principal, le bilan social. Le bilan social et ses composantes, les principales composantes. Alors il n'est pas, spécifique de cibler plus une composante qu'une autre, mais il est vrai quand même que dans le secteur du transport et de la logistique, nous sommes dans un secteur qui est quand même assez accidentogène. Voilà. Permettrait de le dire, et il paraît important de réfléchir donc sur la sécurité au travail, la santé au travail. Au-delà des autres lignes directrices, bien sûr, du bilan social, mais il sera pertinent d'avoir des indicateurs sociaux et de réfléchir dessus, sur la sécurité. Donc, les IPS, qu'on appelle les indicateurs donc, sociaux, ont pour objectif également d'identifier les nouveaux besoins, que l'élève puisse construire un raisonnement et proposer donc de nouveaux besoins, un développement de compétences de son personnel, si on s'aperçoit que l'employabilité n'est pas en lien avec le marché, ou tout simplement mesurer des évolutions, faire un comparatif avec les normes de la profession pour avoir un petit regard de ce que l'on fait par rapport en fait, aux autres. Et l'objectif, bien entendu, sera de positionner la rémunération, et d'apprendre à calculer donc, le salaire d'un conducteur. Donc on ira beaucoup plus loin que la prépaye, ce qu'on faisait en fait en management d'une équipe. Là, on sera vraiment sur la déclinaison d'un salaire. On apprendra quand même à nos étudiants à savoir quelles sont les composantes d'une rémunération, les accessoires. Sachant que donc, pour conclure sur cette activité, l'objectif n'est pas de faire du droit social, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une restitution de cours à un droit social, mais bien, si vous voulez, réfléchir sur les leviers pour pouvoir obtenir des objectifs sociaux, on va dire, cohérents et dignes de nos conventions internationales. Alors, pour la performance environnementale, nous avons qu'une tâche. Une tâche qui cible les impacts environnementaux. Donc là, en fait, notre étudiant, il prend sa casquette de gestionnaire responsable, et puis j'ai envie de dire citoyen, on parle beaucoup de responsabilité des entreprises aujourd'hui. Donc il doit appréhender, en fait, l'impact de son activité, de la mise en œuvre de son activité TPL. Même si on sait tous que le transport pollue, l'objectif n'est pas, en fait, de cibler, en fait, l'entreprise de transport. Mais c'est vraiment de mener une réflexion sur ses impacts environnementaux. Donc nous avons les mêmes compétences transférables, nous n'avons pas de compétences spécifiques dans cette activité. Par contre, nous avons une veille juridique environnementale qui est très très importante, puisque vous le savez qu'on n'a pas d'obligation à réduire les gaz à effet de serre, on a simplement une obligation à publier. Donc on va demander à nos étudiants quand même d'aller lire les rapports annuels des entreprises, de par la dernière loi en 2017 sur le rapportage, d'appréhender le GRI également, de regarder le G4. Les grandes lignes directrices qui ont été publiées en mai 2018. Et on posera donc la norme ISO 26000 dans la RSE, tout simplement parce que la France a adopté dans sa stratégie nationale de logistique cette norme. Donc nos élèves se doivent de connaître les lignes directrices de cette norme. Et on fera bien sûr un approfondissement sur la responsabilité environnementale, puisqu'on viendra mesurer les impacts environnementaux. Alors, l'objectif n'est pas de lister l'ensemble des gaz, azote et compagnie carbone, ou de mesurer les pollutions atmosphériques locales et de faire un comparatif sur le global, ou de mesurer, on parle aussi de l'intensité énergétique, de voir un petit peu comment est-ce que vous consommez, enfin quelles sont vos consommations de vos carburants, mais plutôt de pointer les entreprises pour voir un petit peu quels sont leurs parcs de véhicules, quelles sont les normes euro qui sont mises en œuvre dans ce parc de véhicules. Est-ce qu'on est sur du 6, est-ce qu'on est sur du 7, est-ce qu'on utilise la DiBlue, est-ce qu'on fait des efforts, en fait, pour maîtriser les impacts. En fait, l'objectif est plutôt de trouver des leviers et de faire réfléchir les étudiants sur des situations professionnelles qui permettent de voir un petit peu ce que l'on fait à travers les rapports annuels et puis de se questionner pour aller un petit peu plus loin et progresser et bien sûr réduire ces impacts environnementaux. Alors la dernière, la performance financière qui est en lien avec toutes les autres dimensions, toutes les autres activités, qui est attendue bien entendu, donc qui va porter un regard sur l'activité de l'entreprise à travers l'analyse des documents de synthèse. Les documents de synthèse et nous avons décidé de mener une réflexion sur la solvabilité des entreprises puisque beaucoup d'entreprises, on va dire pas que de transport, déposent le bilan du fait des difficultés qu'elles rencontrent en trésorerie, donc on va faire un point particulier sur la solvabilité. Alors nous avons une compétence spécifique, l'analyse, bien entendu, des documents de synthèse. Donc nous sommes toujours dans cette mise en lien des données avec le questionnement et nous aborderons donc le bilan et le compte de résultat autant par sa lecture analytique que par son interprétation des données. En fait, ce qu'on a décidé, c'est de ne pas partir tout le temps, de façon systématique, dans des calculs comptables pour pouvoir appréhender la structure financière d'une entreprise et son mode de fonctionnement. On a estimé qu'il était aussi important de pouvoir lire un bilan et de pouvoir identifier, appréhender en fait les grandes masses d'un bilan et comprendre en fait l'équilibre financier à travers un bilan. Donc on n'est pas obligé de s'entériner dans les calculs, mais on en parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure lorsqu'on présentera les savoirs.
Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons 11 savoirs qui sont associés à ce bloc, qui sont codifiés donc A3S1 à A3S11. Donc, nous avons décidé de vous en développer uniquement 4. Premier savoir, donc sur les outils de mesure de la performance commerciale. Nous avons bien entendu des principaux indicateurs de performance, donc chiffre d'affaires, mettons comme exemple chiffre d'affaires pour chaque commerciaux, des taux d'augmentation clients, les taux de fidélisation des clients, les outils statistiques, parce qu'effectivement, pour pouvoir mesurer, on sera obligé d'utiliser des outils. Donc, on va parler de moyenne, d'écart type. Donc, du coup, on sera obligé d'utiliser pour mesurer cette performance, d'utiliser des tableurs, utiliser des graphiques, utiliser des ratios. Donc, ce qui est un petit peu nouveau par rapport, on en avait déjà en management d'une équipe, mais là, n'oubliez pas que c'est une épreuve à l'écrit. D'accord ? Maintenant, sur les litiges. Donc, que font les litiges ? Souvent, c'est la question qui a été posée dans le bloc numéro 3 sur la performance. Donc, tout simplement, sur le bloc numéro 1, on a des incidents et des aléas. Sur le bloc numéro 2, on est là sur une conception d'une opération. Et heureusement qu'on n'a pas déjà des litiges au moment de la conception. Ce serait un petit peu embêtant. Le bloc 3, on est sur la performance, et le bloc 4, sur la pérennisation et le développement. Donc, le bloc 3, c'est bien quelque chose qu'on va traiter. Il faudra qu'on diminue ces litiges pour montrer effectivement l'incidence sur la performance. Effectivement, sur la performance commerciale et sur la performance financière. Sur la performance commerciale, on a bien une non-satisfaction de clients, une perte de clients, baisse de chiffre d'affaires, image, bien entendu, de l'entreprise. Sur la performance financière, retard de paiement, parce qu'un client qui n'est pas content, généralement, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne paye pas sa facture. Ou alors, il laisse traîner pendant un certain temps. Vous avez, bien entendu, le coût de traitement des litiges. J'ai une personne qui sera affectée dans l'entreprise, justement, au traitement des litiges. S'il est débordé par la quantité de litiges à traiter, il faudra que je prenne une deuxième personne. Donc, effectivement, ça sera un coût pour l'entreprise. Donc, bien entendu, il y aura une incidence sur l'augmentation du BFR et sur la trésorerie. Méthodologie à mettre en œuvre. On est à l'écrit, n'oubliez pas. Donc, effectivement, on va avoir à nouveau toute la méthodologie de résolution de litige. Donc, on a toujours identification, effectivement, du texte à appliquer, puisqu'on a tous les modes de transport qui seront évalués. À partir de là, donc, texte, convention ou autre, présomption de responsabilité, ça n'a pas changé. À partir de la présomption de responsabilité, est-ce que la demande est recevable ou pas du client ? Voir si c'est le cas, si la demande est recevable, cause d'exonération à mettre en place. Cause d'exonération, si je peux en invoquer un, on s'arrête là. Si malheureusement, il n'y a pas de cause d'exonération que je peux mettre en œuvre, donc à ce moment-là, je suis responsable et là, on va faire intervenir les plafonds. Et de savoir quelle est l'indemnité due à mon client. Donc on va retrouver toujours la même méthodologie qu'on avait dans le suivi en TPL. Alors, les différents conseils par rapport à ces litiges, c'est toujours pareil. Donc, la méthodologie à mettre en œuvre, c'est essentiel. Et bien entendu, on a toujours des problèmes au niveau des calculs, au niveau des plafonds. Souvent, les étudiants, on le voit donc dans le suivi, lorsqu'ils le mettaient à l'étude, enfin dans le groupe 3, hein, groupe 3 donc, de l'épreuve actuelle. Ben, on avait des gens qui ne savent absolument pas quels sont les plafonds, quelle est la méthodologie, comment on fait le calcul, qu'on fait interdire des DTS, mettons, mais ils ne savent pas ce que c'est un DTS. Donc attention à ça. Maintenant, on va parler du bilan.
Alors du bilan, ou peut-être plus précisément des bilans, puisque nous allons appréhender le bilan comptable, le bilan fonctionnel et le bilan financier. Mais je rassure tout le monde, donc l'objectif n'est pas de concevoir des bilans, nous ne sommes pas en technique comptable, nous sommes bien en gestion. Nous allons appréhender ces documents qui constituent des données pour l'étudiant. Donc ils se doivent, on va reprendre la compétence, hein, d'analyser, de faire les liens à l'intérieur du bilan, mais également entre les bilans. C'est-à-dire l'élève doit être capable de glisser d'un bilan comptable à un bilan fonctionnel, à un bilan financier, d'accord, et l'appréhender. Alors, on nous a positionné dans cette activité une dimension temporelle. Tu peux avancer. Voilà. La dimension temporelle, elle est après, et spatiale. Voilà, parce qu'il nous paraissait très important, en fait, de mesurer ce que l'entreprise fait sur une période de plusieurs années pour pouvoir dresser un train. L'idée, ce n'est pas de regarder seulement ce qu'on fait l'année dernière, mais de regarder un petit peu ce qu'on a fait les années d'avant et d'être capable donc de voir la tendance pour pouvoir mesurer l'évolution de nos indicateurs. Et également de regarder ce que la concurrence fait et ce que la profession propose en termes donc de ratios normatifs. Donc avoir vraiment un regard ouvert, hein, sur ce qu'on a fait hier, avant-hier, ce qu'on est capable de faire demain dans une démarche prospective. Mais alors, on ne vous l'a pas dit, mais on n'a pas proposé les probabilités. On a longuement réfléchi sur la probabilité, sur en fait la partie, hein, de l'incertitude, l'avenir incertain. Donc on n'a pas probabilisé donc cet avenir incertain, mais on a quand même un regard, hein, sur le futur par rapport justement au passé. Un regard donc sur la concurrence et la profession, qui nous amènera à réfléchir sur la structure financière et l'équilibre financier. Donc là, nos pistes d'amélioration correspondent à l'optimisation de cet équilibre financier. Qu'est-ce qu'on peut bien faire donc pour améliorer cette structure financière ? Nous allons donc manipuler les indicateurs que vous voyez qui apparaissent, le BFR, le FRNG, donc le nombre de ratios. Donc là, c'est pareil, les ratios seront des données. Nous n'allons pas demander à nos étudiants d'apprendre les ratios. Les ratios seront données. Ce qu'ils doivent être en ils doivent être en capacité en fait de construire un raisonnement, être capable d'argumenter, de proposer des pistes d'amélioration par rapport à ces indicateurs. Et le dernier petit point, voilà, le cycle de trésorerie. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a fait un petit accent sur le cycle de trésorerie. On va apprendre à nos élèves à gérer en fait les créances clients. Donc là, on va remettre au goût du jour les techniques de l'escompte, puisque derrière la gestion des créances, il faut gérer les échéances et la gestion du temps. Et en fait, on va apprendre également à nos élèves hein, donc à articuler ces échéances pour éviter d'être dans l'insolvabilité, la cessation de paiement. Et pour le compte de résultat,
oui.
Voilà, nous avons bon, la même approche, hein, donc je ne vais pas répéter. L'objectif est différent, ce document de synthèse, où c'est qu'on va regarder un petit peu ce qu'il en est de la rentabilité de notre activité économique, réfléchir un petit peu sur les composants, réfléchir sur l'articulation de nos composants, en fait, de voir un petit peu où sont consommées nos ressources en fait, financières pour tenter d'améliorer l'efficacité de cet appareil de production, et puis poser également donc, des indicateurs. Mais on a posé d'autres outils. Voilà. Pour pouvoir arriver sur, par exemple, la valeur ajoutée, nous allons devoir maîtriser les soldes intermédiaires de gestion. Mais je vous rassure, on leur donnera le tableau de SIG. Alors, l'idée, c'est de donner peut-être un tableau avec déjà un chiffrage et de pouvoir expliquer un petit peu ce qu'il en est, d'articuler ses composants. Ou alors de donner un squelette et de demander à l'élève de retrouver certains indicateurs. Voilà, et de réfléchir sur le BE ou de faire le lien entre la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires. De faire, en fait, l'idée, c'est de faire des liens. Au niveau de ces grandes composantes, pour essayer d'améliorer cette rentabilité.